Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
C'est triste, plus que même triste. Pourquoi quitter chez toi à la maison avec un couteau pour venir tuer quelqu'un qui travaille pour les gens?
La stupeur ce soir à Pau, un demandeur d'asile soudanais a tué à coup de couteau le responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés. L'homme qui a été interpellé était sur le point d'être expulsé. Les premiers éléments de l'enquête dès le début de ce journal avec notre correspondant sur place. L'impatience des résidents en EHPAD, les trois quarts sont désormais vaccinés contre le Covid, mais le protocole sanitaire est toujours aussi strict. Renault sur la bande d'arrêt d'urgence, le constructeur automobile a perdu 8 milliards d'euros l'année passée et la pandémie n'explique pas tout. Nous verrons comment la marque aux losanges compte rebondir. Attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, surtout si vous fraudez le fisc. Les inspecteurs des impôts ont désormais le droit d'accéder à vos publications pour vérifier si vous ne trichez pas sur votre déclaration. Dans ce journal également, la disparition de Philippe Châtel, le père d'Émilie Joly, les mondiaux de ski et une deuxième médaille d'or pour le français Mathieu Fèvre. Et puis le foot, 26e journée de Ligue 1 avec le stade brestois qui est en train de sombrer face à l'Olympique lyonnais, Hervé Bride.
Ah oui, ils ont pris 3 buts et ils les ont donnés, les 3 buts aux Lyonnais qui mènent donc 3-0 alors qu'on joue depuis 2 minutes en deuxième mi-temps.
Merci beaucoup Hervé et à tout de suite. La météo de ce week-end, elle sera printanière avec beaucoup de soleil et des températures en hausse. Quelques touches d'humidité toutefois à prévoir dans le sud et en Bretagne, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a rebondi en ce vendredi, plus 0,79% à 5 773 points. Et tous les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview éco, dans 20 minutes, l'industrie automobile fait face à une pénurie de composants électroniques. Et oui, il faut des puces aujourd'hui pour faire rouler nos voitures. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Jacques Achenbrois, le PDG de Valeo, l'un des tout premiers équipementiers automobiles au monde. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'incompréhension. Ce soir à Pau, je vous le disais en titre, le responsable d'un centre d'accueil de réfugiés a été mortellement blessé, poignardé à plusieurs reprises sur son lieu de travail. L'agresseur a rapidement été interpellé. Il s'agit d'un Soudanais de 38 ans en situation irrégulière. Benjamin Peter, vous êtes sur place pour Europe 1. Que sait-on des motivations du tueur présumé?
Eh bien, ce qu'on sait, c'est que cet homme de 38 ans était arrivé du Soudan en 2015. Sa demande d'asile avait été refusée par l'OFPRA, puis validée par la justice administrative, mais suite à une condamnation en 2017 pour une rixe à l'arme blanche, les services du ministère de l'Intérieur l'ont convoqué à plusieurs reprises pour lui indiquer qu'il devait désormais quitter le territoire national. C'est ce qui l'aurait poussé à poignarder à 10 reprises Cyril, le chef du service de demande d'asile ici au CADA, qui pourtant l'assistait. Léonard, qui vient de République démocratique du Congo et qui est pensionnaire du CADA, connaissait bien Cyril. Il ne comprend pas qu'on s'en soit pris à lui.
Cyril, c'est un homme bien attentif, l'homme qui écoute tout le monde. C'est notre patron, c'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui, grâce à lui, que je suis là. Grâce à lui, j'ai fait les formations. Je suis découragé. C'est triste, plus que même triste. Pourquoi quitter chez toi à la maison pour venir tuer quelqu'un qui travaille pour les gens?
Voilà, alors ici devant le CADA, l'émotion est immense et tout ça. Salue le professionnalisme et l'investissement dans son travail de ce chef de service dont les collègues ont tout fait pour désarmer l'assaillant et tenter de le sauver.
Merci Benjamin Peter à Pau pour Europe 1 où s'est rendu en fin d'après-midi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. À ses côtés, le maire de la ville, François Bayrou, qui a exprimé sa solidarité aux collègues de la victime.
Nous avons vu avec le ministre de l'Intérieur l'émotion des collaborateurs qui vivent doublement un choc. Un choc parce qu'ils ont perdu leurs collègues, leurs amis, leurs proches. Et un choc parce qu'ils l'ont perdu alors que précisément leur vocation est de s'occuper de ceux qui recherchent le refuge et l'asile. C'est leur vie de les prendre en charge et de les aider, et c'est par l'un d'entre eux que leur collègue et ami a perdu la vie. Et donc c'est un double choc, et les visages et les yeux le disaient beaucoup. Et c'est un choc pour la ville parce que c'est une association qui discrètement joue un grand rôle, précisément pour que ces situations tragiques ne montent pas en tension et en dérive et qu'on puisse s'en occuper, prendre en charge, faire en sorte que au mieux les choses se passent.
François Bayrou, le maire de Pau, au micro Europe 1 de Benjamin Peter.
Europe 1, Julien Pierce.
On l'a bien compris, depuis un an, la lutte contre le Covid est un marathon éprouvant, certes, mais avec son lot de petites victoires, comme ce seuil qui a été franchi hier soir. 1 million de Français ont désormais reçu les 2 doses du vaccin. Et parmi ces personnes, il y a les résidents en EHPAD. Les 3/4 ont été vaccinés. C'était la priorité du gouvernement pour ce début de campagne. Mais maintenant que les plus âgés sont protégés, ne pourrait-on pas leur redonner un peu de liberté? C'est en tout cas ce que demandent les pensionnaires que vous avez rencontrés, Victor Delande, car le protocole sanitaire auquel ils sont soumis, lui, est toujours aussi strict.
Oui, je me suis rendu dans un EHPAD de Sartrouville, dans les Yvelines, des visite limitée, pas plus de 3 personnes par semaine, 1 heure par visite. C'est parfois moins dans certaines maisons de retraite. Et pourtant, dans cet établissement, un peu plus de 60% des résidents ont reçu les 2 injections du vaccin Pfizer. Madeleine, 94 ans, en fait partie. Elle ne comprend pas pourquoi les règles sont toujours aussi strictes.
On a pris justement ce risque de se faire vacciner. C'était pour avoir un petit avantage dans notre vie.
Et cet avantage ?
On l'a pas. Ce manque de liberté, c'est quelque chose d'insupportable. On n'a rien fait de mal, nous. C'est pas notre faute, ça. On est comme si on était en prison.
À son âge, elle veut profiter au plus vite de ses proches.
Si j'étais jeune, je me dirais, bon, bah, c'est un mauvais moment à passer, mais on récupérera. Mais moi, j'ai pas de temps pour attendre. J'en ai pas.
Vanessa Rino, directrice de cette EHPAD, plaide également pour un assouplissement du protocole sanitaire.
Je pense que les résidents se sont fait vacciner dans le but de retrouver un semblant de vie. Et je suis tout à fait dans cette optique. Donner un peu plus d'accès aux familles, laisser un peu plus de liberté aux résidents. Il faudrait vraiment assouplir les règles qu'il y a en ce moment.
Alors, nous avons interrogé le ministre de la Santé, Olivier Véran, hier soir lors de son point presse hebdomadaire. Il attend de savoir si la vaccination permet d'éviter les hospitalisations et les formes graves de la maladie dans les EHPAD. Dès qu'il aura ces données, il promet d'assouplir le protocole sanitaire. Mais je peux déjà vous donner un signe très encourageant. Selon les données de Santé publique France ce matin, les contaminations ont baissé de 40% dans les EHPAD lors des 15 derniers jours. À voir donc si cette tendance se confirme dans les 15 prochains jours au niveau des hospitalisations.
Merci Victor Delande. Toujours concernant la vaccination, cette information importante. Il sera bientôt possible de se faire vacciner en entreprise d'ici la fin du mois de février, promet le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski. Les salariés qui pourront en bénéficier dans un premier temps sont ceux âgés de 50 à 64 ans et qui présentent des comorbidités. Emmanuel Macron se donne 8 à 10 jours avant de relâcher ou resserrer les contraintes, en clair, assouplir le couvre-feu ou reconfiner. Voilà ce qu'a confié le chef de l'État lors d'une visioconférence avec des parlementaires de la majorité. L'Élysée attend d'en savoir plus sur l'impact sanitaire de la progression des variants. Et justement, en Moselle, où la mutation sud-africaine est très présente, on a désormais les résultats sur l'étude des eaux usées menées par les marins-pompiers de Marseille. Et c'est plutôt une bonne surprise. Il n'y a pas d'explosion du virus à ce stade. On constate une stagnation de la situation, indique la préfecture. Là, c'est tout sauf une stagnation. Renault a annoncé aujourd'hui une perte historique de 8 milliards d'euros l'année passée. C'est du jamais vu. La marque aux losanges paie le recul de ses ventes en raison de la pandémie, mais ses résultats catastrophiques s'expliquent aussi par les mauvaises performances de Nissan. Clément Le Saff, comment est-ce que le groupe compte s'y prendre pour rebondir ?
Eh bien, c'est fini pour la course au volume, c'est-à-dire vendre toujours plus de voitures. Ce que veut le groupe maintenant, c'est gagner plus d'argent sur chaque voiture vendue. L'an dernier, la marge a été de 3,5%. C'est beaucoup moins que chez PSA. Alors, comment on y arrive ? Eh bien, en rationalisant les coûts. Ça passe, par exemple, par un plan d'économie. Il faut aussi vendre des voitures qui font de la marge. Et Renault ne fait pas les choses à moitié. 24 lancements sont prévus d'ici 2025. La moitié sera des compacts et des berlines, des segments très profitables. Renault va aussi monter en puissance sur les hybrides et compte bien garder son avance sur l'électrique. Et puis le groupe veut aussi se transformer en fournisseur de mobilité. La voiture individuelle a encore de beaux jours devant elle, je vous rassure, mais elle ne peut plus être la seule solution offerte. Autopartage, livraison du dernier kilomètre, berline adaptée au service de VTC, recyclage des batteries, mais aussi modèle de financement innovant. Voilà tout le panel que va proposer Renault. Ces activités devraient générer 20% du chiffre d'affaires du groupe d'ici à 2025.
Clément Le Saff, dans quelques minutes, nous verrons verrons dans Top à Wall Street avec Claire Lemaître si ces résultats de Renault ont eu un impact sur son titre en bourse. Cet avertissement maintenant à ceux qui seraient tentés de frauder le fisc, que les agents des impôts ont désormais le droit de scruter vos publications sur les réseaux sociaux. Une surveillance qui vient d'être officiellement validée par décret, Olivier Samin.
Et oui, l'administration fiscale va pouvoir scanner et analyser avec ses algorithmes les données que vous laissez sur votre compte Facebook ou Twitter. Et ça lui permettra de vérifier si ça colle bien avec ce que vous indiquez dans votre déclaration de revenus. Par exemple, vous invoquez votre statut d'expatrié qui vous permet de ne pas payer l'impôt sur le revenu en France. Eh bien, le fisc pourra regarder si, au cours de l'année, vous avez résidé au moins 120 jours à l'étranger, c'est la condition requise, et si votre compte Facebook montre que, en réalité, vous avez passé l'essentiel de votre temps en France, vous aurez des nouvelles de l'inspecteur des impôts. Ce nouvel outil dans l'arsenal du contrôle fiscal vise aussi à repérer les trafics illicites en ligne, de même que le commerce caché. Par exemple, le brocanteur qui vend ses objets sur un site de vente en ligne réservé aux particuliers et qui, du coup, ne le déclare pas dans ses bénéfices professionnels. Il n'est pas question de traquer tous les Français, nous dit-on à Bercy, mais simplement de mieux traquer les fraudeurs en exploitant les données publiques qui apparaissent sur les réseaux sociaux, celles qui sont accessibles à tout le monde. La loi de 2019 a prévu que ce serait une expérimentation sur 3 ans et qu'un bilan sera fait ensuite devant le Parlement.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Au Royaume-Uni, la rupture est consommée entre la famille royale et le couple Harry et Meghan. Le prince et son épouse ont perdu leur dernier titre officiel après avoir confirmé à la reine d'Angleterre leur mise en retrait définitive. Le duc de Sussex va donc se voir retirer ses titres militaires, tandis que son épouse va perdre ses patronages caritatifs. Le couple a révélé en début de semaine attendre un deuxième enfant. Et puis, toujours dans la rubrique People, on vient de l'apprendre, la star américaine de télé-réalité Kim Kardashian a officiellement demandé aujourd'hui le divorce de son époux, le rappeur Kanye West. Le couple est marié depuis mai 2014 et a 4 enfants. Partons maintenant en Algérie où Khaled Drareni a été libéré aujourd'hui. Le journaliste et ancien correspondant d'Europe 1 avait été condamné en septembre dernier à 2 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale. Il vient de s'exprimer, on l'écoute.
Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont soutenu les détenus d'opinion car votre soutien est essentiel pour nous tous et votre soutien est la preuve de notre innocence. Merci.
Khaled Drareni, qui fait partie de la trentaine de détenus du Hirak, le mouvement contestataire gracié hier par le président algérien.
Europe Soir, Julien Pierce.
On a appris aujourd'hui la disparition du chanteur et compositeur Philippe Châtel à l'âge de 72 ans. On lui doit un conte musical mondialement célèbre, Émilie Joly, cette comédie musicale qui a accompagné plusieurs générations. Mais Philippe Châtel avait bien d'autres cordes à son arc, Angèle Châtelier.
Je m'appelle Émilie Joly.
Cette voix enfantine, c'est celle de Séverine Vincent, 6 ans, la première chanteuse à s'être mise dans la peau d'Émilie Joly, le phénoménal album musical que Philippe Châtel a écrit pour sa fille dans les années 70. Un album pour lequel il a invité des interprètes prestigieux, Julien Clerc, Sylvie Vartan, Henri Salvador, Françoise Hardy, plus d'un million d'exemplaires vendus. Mais avant Émilie Joly, Philippe Châtel avait déjà eu du succès avec 2 chansons, Je t'aime bien Lily et Malicéenne.
Tu veux quelqu'un qui te comprenne.
Philippe Châtel s'est toujours entouré de la florissante scène française. Il est d'abord le coursier d'Henri Salvador, puis l'ami de Georges Brassens. Il devient même écrivain en signant la biographie du chanteur. Alors oui, Philippe Châtel publie au fil des années un autre conte musical, des albums de chansons, mais rien n'aura le même succès qu'Émilie Joly. Au point qu'en 1997, de nouveaux interprètes s'approprient les chansons. Alain Bachung, Axel Red, Étienne Dao et même Johnny Hallyday dans le rôle du grand oiseau.
Tu t'appelles Émilie Joly.
En 2006, sa vie est bouleversée. Philippe Châtel est victime d'un accident de quad qui le plonge dans un coma de 3 mois. Ce n'est que 10 ans plus tard qu'il reprend la plume et use de nouveau de sa voix avec Renaissance, son 8e album, le dernier. Émilie Joly aura été le fil rouge de sa vie. Philippe Châtel avait même pour projet de réunir la nouvelle génération d'artistes une nouvelle fois autour de ses chansons.
Mais il y a tant de choses à voir avant de partir pour le firmament. Il y a tant de pages à tourner.
Hommage à Philippe Châtel, signé Angèle Châtelier. 22h14 sur Europe 1, c'est l'heure d'ouvrir notre page au sport avec tout d'abord cette nouvelle médaille d'or pour Mathieu Febvre aux Mondiaux de ski. Après avoir remporté mardi le slalom parallèle, le Français s'est offert aujourd'hui le géant à Cortina d'Ampezzo en Italie. On attendait plutôt Alexis Peintureau, grandissime favori, mais finalement, c'est l'outsider Fèvre qui repart tout sourire.
Je suis venu ici en priorité pour le géant, et puis c'est vrai que de repartir de cette course avec la plus belle des médailles, c'est juste un sentiment incroyable. En plus de ça, effectivement, ça fait 53 ans qu'il n'y avait pas eu de champion du monde de géant. Moi, c'est ma discipline, je suis géantiste, je fais quasiment que ça, donc ça représente énormément de choses. En plus de ça, voilà, après Jean-Claude Killy, c'est quand même la référence dans le monde du ski alpin, et encore plus chez nous les Français, avec Alexis bien évidemment, qui a un palmarès aussi incroyable. Donc, effectivement, d'inscrire mon nom après lui au palmarès du géant en tant que champion du monde, c'est lourd de sens. Et il faut croire qu'ils ont raison, les gens qui disent que les choses elles arrivent quand on s'y attend le moins, parce que voilà, aujourd'hui, c'est pas que je m'y attendais pas, mais en tout cas, je pensais réellement pas pouvoir repartir d'ici avec deux médailles d'or.
Le double médaillé d'or, Mathieu Fèvre au micro européen de Romain Libard. En rugby, inquiétude pour le 15 de France. Après le sélectionneur Fabien Galthié, le demi de mêlée Antoine Dupont est à son tour positif au Covid. On attend maintenant fébrilement les résultats des autres joueurs alors que se profile dans 10 jours le match face à l'Écosse dans le tournoi des 6 nations. Le tennis, on connaît désormais les affiches des finales de l'Open d'Australie. Novak Djokovic affrontera dimanche le russe Daniil Medvedev qui s'est facilement qualifié tout à l'heure face à Tsitsipas. Du côté des dames, la finale se jouera demain matin, elle opposera la japonaise Naomi Osaka à l'américaine Jennifer Brady. On passe au foot avec ce match que l'on suit ce soir sur Europe 1, Brest-Lyon, 26e journée de Ligue 1. Hervé Bride, vous êtes en direct du stade Francis Leblay. Est-ce que les Brestois ont retrouvé un peu de couleur ?
Ah oui, ils ont retrouvé des couleurs puisqu'ils ont marqué un but il n'y a pas très longtemps. C'était à la 53e minute par Chardonnay. Un but magnifique d'ailleurs de la tête, et il valait mieux qu'ils reprennent cette deuxième mi-temps sur un tempo plus élevé, parce que en première période ils ont dominé pendant un quart d'heure. Ensuite ils ont encaissé trois buts. Le premier, un cadeau du gardien Cibois qui a donné carrément le ballon à Paqueta pour qu'il puisse le mettre au fond des filets. Ensuite c'est Oussem Aouar qui a profité d'un départ un petit peu poussif au milieu de terrain de Lannes qui a laissé traîner ce ballon, et puis en deux passes, eh bien, Aouar a mis le ballon au fond. Puis ensuite encore une erreur du gardien Cibois, pénalty pour Depay, 3-0. Et là, on s'est dit, où vont-ils aller, nos Brestois ? Eh bien, les voilà qui se sont remis dans le coup, puisque à la 61e minute, ils ne sont plus menés que 3-1.
Merci Hervé Bride, en direct de Brest pour Europe 1. On vous retrouve, Hervé, dans quelques minutes à la fin de cette édition. On passe à la météo, Anissa Dadi. Encore quelques nuages demain sur la Bretagne et le Sud.
Oui, effectivement, Julien, demain, du Languedoc jusqu'à la basse vallée du Rhône, le ciel est encore un petit peu couvert avec des averses, notamment sur les Cévennes. En Bretagne et dans le Cotentin, là aussi, nous avons des nuages qui sont un petit peu plus nombreux, avec sur le Finistère en particulier des averses qui vont durer toute la journée. Partout ailleurs, c'est une journée qui sera ensoleillée avec un avant-goût de printemps. Attention tout de même demain matin sur la moitié nord au brouillard, en particulier sur le nord-est. Sur les côtes de la Manche, le pourtour méditerranéen, le massif central et la vallée du Rhône, même jusqu'en Bourgogne, le vent du sud se lève et il souffle assez fort. Demain, on aura des rafales jusqu'à 90 km/h dans les terres. Les températures, elles sont toujours aussi douces demain matin avec 2 à 15 degrés, ça grimpe dans le sud. On aura 2 degrés à Strasbourg, 4 à Besançon, 7 pour Clermont-Ferrand, 8 à Paris, 11 à Brest et 15 demain matin à Biarritz. Dans l'après-midi, notez 13 à 22 degrés, 13 pour Brest, 16 à Lyon, 18 à Paris et 22 pour Biarritz.
Merci beaucoup Anissa Dadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre. C'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
La bourse de New York termine en toute petite hausse ce soir au terme d'une semaine qui aura été très hésitante.
Oui, une semaine marquée par une brusque tension sur les taux d'intérêt. Les indices hésitent. Le Dow Jones est parfaitement stable, 31 494 points. Le Nasdaq, lui, gagne un tout petit 0,07%, 13 874 points. Ça monte tout de même pour les compagnies aériennes qui espèrent une reprise du trafic un peu plus rapide grâce à la vaccination. American Airlines grimpe de 5,5%, Delta Airlines plus 3%. En revanche, Uber perd 1%. La Cour suprême britannique a estimé aujourd'hui que des chauffeurs VTC pouvaient être considérés comme des salariés, une décision qui pourrait faire jurisprudence. Encore beaucoup, beaucoup de spéculation autour du Bitcoin. La crypto-monnaie a passé la barre des 54 000 $ aujourd'hui. Et puis l'euro, lui, gagne 0,2%, 1,21 $. 2015.
Fin de semaine positive à Paris avec encore plusieurs publications de grandes entreprises au menu de cette séance.
Et le CAC 40 affiche une hausse de 0,79%, 5773 points. Le bilan hebdomadaire est bon, lui aussi, avec un gain de 1,2% pour l'indice parisien depuis lundi. Hermès fait partie des plus fortes hausses du CAC. L'activité trimestrielle du groupe de luxe a été dopée par la vigueur du marché asiatique, plus 3% ce soir pour le titre Hermès. Forte hausse aussi pour Danone. Le groupe s'attend à un premier trimestre encore difficile avant une embellie.
On en parlait dans le journal, c'est beaucoup plus compliqué pour Renault qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire.
Avec une perte nette historique de 8 milliards d'euros en 2020 pour le groupe automobile. Perte due, donc on le disait, à la baisse de ses ventes et aux difficultés de son partenaire Nissan. L'action chute de 4,4%. Tarkett aussi est dans le rouge après des résultats annuels jugés là aussi décevants, plongeant de plus de 13% pour le titre du fabricant de revêtements de sol. La semaine se termine bien pour les marchés en Europe. Londres gagne 0,1%. Francfort plus 0,8, plus 0,8 aussi pour Amsterdam, Milan plus 0,9 et le CAC 40 gagne 0,8%, 5773 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com et à lundi Claire. 22h et bientôt 22 minutes sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Jacques Aschenbroix.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG de Valeo. Valeo, c'est l'un des tout premiers équipementiers automobiles au monde. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est que Valeo vient de présenter ses résultats pour l'ensemble de l'année 2020. Alors, vous perdez un petit peu plus d'un milliard sur cette année 2020. Ce qui est intéressant quand même, je trouve, quand on regarde vos résultats, ça a été catastrophique sur le premier semestre, mais on note une véritable reprise sur le deuxième semestre.
Meilleure façon de présenter l'année 2020, la première partie de l'année, c'est la partie où, en raison de la Covid, tout s'est arrêté. L'industrie automobile s'est arrêtée pendant 6 semaines. Notre chiffre d'affaires du deuxième trimestre a baissé de 50%. Donc tout s'est arrêté. Et il a fallu se préoccuper pendant cette période de protéger la santé de nos collaborateurs, de protéger nos actifs. Vous vous souvenez peut-être qu'on a fermé 154 usines qu'il a fallu réouvrir. Protéger notre liquidité, c'est-à-dire notre cash. On avait des lignes de crédit non tirées d'1,3 milliard. On a négocié 1 milliard complémentaire qu'on n'a toujours pas tiré. Et puis le second semestre, qui est un rebond beaucoup plus rapide au troisième trimestre qu'on avait imaginé, une vraie croissance. Et c'est ça la bonne nouvelle, une croissance par rapport à 2019 au quatrième trimestre de 5,3%, qui est très élevé. Et puis des résultats financiers qui sont finalement excellents au deuxième semestre. Et un engagement exceptionnel de l'ensemble de nos collaborateurs pour faire face à ce redressement du deuxième semestre.
Valeo, c'est le spécialiste notamment des motorisations électriques, de l'assistance à la conduite pour l'automobile. Est-ce que vous pensez que d'une certaine manière, cette crise va accélérer la transition qui était déjà engagée bien évidemment, mais va accélérer la transition de l'industrie automobile ?
On voit depuis quelques années l'ensemble de l'industrie automobile, mais vraiment pour de vrai, investir pour être capable de livrer des produits qui soient respectueux de l'environnement. La mobilité, qu'elle soit par voiture, qu'elle soit par trottinette, vélo électrique, etc., c'est un bien individuel que personne ne veut remettre en cause. Il y a une certaine réticence aujourd'hui de prendre des transports en commun, une vraie boom des mobilités individuelles, mais il y a une vraie volonté, une vraie politique de l'ensemble de l'industrie, on en fait partie.
Mais qui s'accélère avec le Covid ?
Il s'accélère. Alors, quand on regarde la croissance à la fois en Europe et en Chine des véhicules électriques, l'année dernière, c'est une croissance, ça a plus que doublé. Les consommateurs sont preneurs de véhicules respectueux. Ils veulent de la mobilité, mais ils veulent une mobilité qui soit respectueuse de l'environnement. Donc c'est une évolution qui est, un, irréversible, et deux, qui va ne faire n'aller qu'en s'accélérant.
Il y a un point intéressant aussi pour montrer peut-être cette année en deux temps, c'est que vous aviez supprimé des emplois chez Valeo lors du premier semestre, et vous êtes revenu, je crois, à la fin de l'année 2020, au niveau de 2019, grâce à cette reprise.
Avec le rebond, nous avons repris des intérimaires, nous avons repris un certain nombre d'embauches en France et partout dans le monde. En France, on est revenu à peu près au nombre de collaborateurs que nous avions fin 2019 et globalement dans le monde également. Donc effectivement, après avoir cessé de renouveler les contrats intérimaires, cette phase de croissance dans laquelle nous avons été au second semestre nous a permis de réembaucher à peu près le nombre équivalent de personnes qui nous avaient quittés.
Alors en ce moment, toute l'industrie automobile est touchée par une autre difficulté, c'est la pénurie de composants électroniques. Ces composants sont bien évidemment fabriqués en Asie. Déjà, pour qu'on comprenne bien, pourquoi là, en ce moment, après une année de crise où on a moins produit de voitures, on n'a pas assez de composants ?
Alors c'est un phénomène qui peut paraître paradoxal. Leurs propres fournisseurs, ce qu'on appelle les fonderies, sont, elles, localisées en Asie. Il y a une société dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui s'appelle Taiwan Semiconductor Company, donc TSMC, qui a une partie, plus de 50% du marché mondial, des productions, des fonderies de silicium qui sert de base aux composants électroniques. Et là, il y a un goulot d'étranglement réel. Pendant ces périodes de crise, il y a eu des secteurs d'activité qui utilisent beaucoup de puces électroniques, que ce soit l'électronique grand public, les ordinateurs, les téléphones portables ou la 5G. Donc il y a eu finalement, au moment où l'industrie automobile s'arrêtait, une vraie demande en très forte hausse d'autres secteurs d'activité qui utilisent aussi des composants électroniques. Et personne n'avait prévu le rebond de l'industrie automobile. Donc on se trouve effectivement pendant quelques mois dans une situation difficile.
Mais avec des effets très concrets. Ce matin, le patron de Renault dit qu'il pourrait y avoir du retard dans la fabrication de 100 000 voitures. C'est quand même pas rien, même à l'échelle d'un groupe aussi gros que Renault, à cause de cette pénurie. C'est historique là aussi.
Ce qu'on mesure, et c'est un chiffre que j'ai donné hier, le nombre de véhicules perdus par rapport à nos prévisions, dans l'industrie, ce n'est pas pour Valeo, mais pour l'industrie, au premier trimestre serait de l'ordre de 850 000 voitures. Donc c'est un nombre extrêmement important. On aura encore quelques mois difficiles. Le mois de mars, le mois d'avril seront encore difficiles. Et on devrait avoir une amélioration sur la fin du deuxième trimestre. Le deuxième semestre devrait permettre de compenser globalement pour l'industrie les pertes du premier semestre.
Mais est-ce que vous appelez comme industriel à ce qu'on ait ce genre d'usine en plus grand nombre chez nous, ici, en Europe et pourquoi pas en France ? Pour vous, ça doit être insupportable quand même, cette pénurie.
Je suis toujours favorable à ce qu'il y ait des investissements en Europe ou en France. Nous-mêmes, on produit en Europe ce qu'on vend en Europe, on produit en Chine ce qu'on vend en Chine. Les investissements dans l'industrie électronique sont considérables. Et c'est vrai que beaucoup d'investissements comme TSMC, dont je parlais tout à l'heure, sont localisés plutôt en Asie qu'en Europe. Et je serais extrêmement favorable et applaudirais dès demain si effectivement une partie de cette industrie se relocalisait. Mais c'est des phénomènes de long terme. Mais c'est vrai que c'est une situation qu'on a vu venir depuis la fin du mois de décembre et qui vient au mauvais moment.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. C'était Jacques Aschenbroix, le PDG de Valeo. Valeo, l'un des plus gros équipementiers automobiles au monde. Un grand merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve lundi, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. On vous retrouve également lundi à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous nous parlerez du bio avec votre invité Christophe Barnouin, PDG d'Ecotone, groupe qui comprend notamment les marques Björg ou encore Bonne Terre.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
22h28 sur Europe 1, jetons maintenant un œil aux unes de la presse de demain. Ça va être bref, vu que la plupart des rédactions n'ont pas encore terminé leur bouclage. On commence avec Libération, dont la une est une photo de Memphis Depay, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, allongé sur le sol avec sur son dos un lionceau. Fauve qui peut, titre Libé, qui publie une enquête sur cette nouvelle mode qui consiste de s'exhiber sur les réseaux sociaux avec un lionceau ou un bébé tigre. Rappeur, footballeur ou encore vedette de la télé-réalité en raffole, et c'est à Dubaï que ça se passe, dans un zoo dirigé par un Français. Moyennant 250 €, vous pouvez faire joujou, téléphone en main avec d'adorables fauves. Ce qui n'est pas adorable, en revanche, c'est que cette mode entretient le trafic illégal de ces espèces. Enquête à lire demain dans Libération. Université, polémique sur une dérive militante, titre pour sa part Le Figaro. Si les propos de Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme ont déclenché un tollé, nombre de professeurs s'inquiètent de la pression grandissante des théories décoloniales et racialistes, écrit le journal. L'islamo-gauchisme n'est pas une discipline, un domaine de recherche, c'est une réalité politique, affirme Vincent Trémollet de Villers dans l'édito du Figaro.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Et comme promis, on conclut ce journal de la nuit avec le foot, la 26e journée de Ligue 1, Brest-Lyon au stade Francis Leblay. On vous retrouve, Hervé Bride, les Brestois viennent de marquer à nouveau.
Eh oui, un deuxième but par Charbonnier, totalement
transcendé cette équipe brestoise. Elle était menée 3-0 à la mi-temps. Et là, maintenant, eh bien, elle n'est plus menée que 3-2. Et comme il reste encore un quart d'heure à jouer, plus les arrêts de jeu, il va y en avoir pas mal, eh bien, ils peuvent encore espérer revenir au score. Une chose à laquelle on ne pensait pas à la mi-temps, puisque je vous rappelle qu'ils étaient déjà menés 3-0 et qu'ils avaient complètement sombré. Eh bien, les voilà revenus dans le jeu sous une pluie battante. 3-2 en faveur de Lyon ici à Brest.
Merci beaucoup Hervé Bride en direct de Brest pour Europe 1. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Ça va, merci, et vous ?
Mais parfaitement bien. 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Et on vous attend de pied ferme dans une demi-heure pour les prochaines infos.
A tout de suite.